l'impression que ces personnes sont un peu tyrannisées par les normes des valides, en quelque sorte. Et je me demandais si c'était toujours le cas. Est-ce que ça ne dépendait pas, par exemple, de moment où apparaissent les premiers symptômes de, voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi des situations où ces personnes, plutôt que d'être tout le temps à essayer de s'efforcer de répondre aux normes des valides pour retrouver une vie normale, etc. Est-ce qu'elles n'étaient pas aussi de temps en temps amenées à trouver de nouvelles normes d'existence, etc., etc. Et du coup, par exemple, enfin, je vais vous donner un exemple. Donc je ne sais pas à quel âge apparaissent les premiers symptômes, mais imaginons que, voilà, j'en sais rien, un enfant, dès son plus jeune âge, puisse marcher parce que c'est des gens qui ne fonctionnent pas. Dans l'univers familial, il va se déplacer en utilisant ses coudes et donc ramper sur le sol. Et ça va être quelque chose dans l'univers familial qui est tout à fait naturel. Puis, plus tard, en grandissant, confronté à l'espace public, etc., etc., et là, il va utiliser un fauteuil. Voilà, c'est peut-être un petit peu pour relativiser cette tyrannie des normes valides et voir est-ce qu'il n'y a pas aussi. Parce que vous parlez des normes du corps performant, mais il y a aussi une performativité, finalement, dans la construction de nouvelles normes. Et, voilà. C'était pour savoir si vous aviez des exemples de ce type, hein, de trouver de nouvelles normes qui seraient un peu différentes de ces normes d'une vie normale.
Alors, c'est vrai, comme vous le dites, les âges de diagnostic déjà sont très différents. Et nous, on a plutôt traité des découvertes donc à partir de l'âge adulte, ce qui est assez. Ce qui a des conséquences importantes pour l'étude et nos observations, puisque ça veut dire que pendant toute une partie de leur vie, justement, il y avait, on va dire que ce n'était pas tellement traité comme des symptômes, mais plutôt comme des repères d'attributs qui seraient propres à la personne et qui lui appartiendraient comme façon d'être parmi les autres dans des espaces plus ou moins ordinaires. Alors là, c'est vrai que, disons, le diagnostic après 20 ans a souvent entraîné que les personnes rencontrées ont eu des parcours scolaires normaux, enfin, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas placés en institution comme les jeunes enfants de Steiner qui, eux, auraient vécu directement dans des normes d'établissement de handicap. Donc ici, on a vraiment affaire à une population qui a été appréhendée, qui s'est identifiée comme parfois juste étant une personne un petit peu plus en retard que les autres sur certaines performances, notamment dans le sport, dans les capacités scolaires, ou alors des personnes qui correspondaient très bien, qui collaient aux objectifs de la société, donc réussir ses études, obtenir un emploi, faire carrière, jusqu'à ce que ces performances s'étiolent un petit peu. Et justement, là, c'est pour ça qu'on j'aurais pu vous évoquer un petit peu plus ce processus de délitement où le départ du travail va se faire de manière soit progressive, soit brutale, mais en tout cas, il y a réinversion de normes peut-être et reconfiguration, mais surtout lorsque ça lâche, lorsque la personne n'est plus en mesure de continuer à recouvrir son statut. Et là, par contre, oui, on peut observer un basculement chez certaines personnes plutôt dans le milieu du handicap, lorsqu'elle a des atteintes sévères, lorsque c'est déjà trop tard, et que sa vie ne se joue plus dans des espaces professionnels insérés et que de toute façon elle se trouve entourée de personnel soignant, qu'elle a peut-être eu elle-même des enfants très atteints et que là elle va se rapprocher des associations. Donc on peut dire que là effectivement les normes vont plutôt rejoindre celles de la normalité peut-être, parce qu'elle se rapproche plus des institutions à l'écart du milieu ordinaire. C'est un petit peu la réponse à apporter.
Je pourrais ajouter que, comme c'est le cas pour plusieurs des maladies génétiques comme ça, parfois, lorsque les circonstances, la situation historique les propice, il y a une concentration de cas dans des isolats, dans des communautés fermées, ce qui est le cas au Québec. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites au Québec sur la maladie Steinert par des équipes multidisciplinaires dans lesquelles il y avait effectivement des anthropologues. Alors, dans ces communautés-là, souvent, on retrouve une prévalence, une proportion de la population qui est touchée par la maladie Steinert qui est beaucoup plus importante. Pas au point où la maladie devient la norme, mais au point, en tout cas, où la réaction de la population, la construction de la norme est complètement différente que si, par exemple, c'est un cas unique dans une communauté, un village, enfin une ville, quelque part, où la personne est complètement isolée, quoi, finalement, elle se retrouve un peu seule. Alors, le rapport aux normes dépend, évidemment, du contexte social dans lequel ça se trouve. Et, évidemment, là, il y a tout un ensemble de dimensions anthropologiques et historiques extrêmement intéressantes à explorer dans ce contexte-là.
Et pour ajouter à ce que vous dites aussi, parfois, lorsque c'est une maladie familiale et qu'il y a un effet domino, en fait, de détection de la maladie qui va se faire sur les membres de la famille, justement, ça peut créer une norme intrafamiliale où... les individus, finalement, en vivant parfois en cocon et un peu retirés certains enquêtés qu'on a rencontrés, finalement, c'est la norme qui s'instaure aussi entre eux, puisqu'ils reconnaissent leurs enfants comme ayant un air de famille avec eux. Donc voilà, c'est aussi une norme qui se propage de cette manière.
Mobilisée pour ce travail s'inscrit vraiment dans une sociologie de la maladie. Et en fait, je me demande si il n'y aurait pas aussi à gagner, à articuler peut-être cette approche-là avec la sociologie de l'handicap. Voilà, la sociologie de l'handicap qui a vraiment une façon, qui aborderait peut-être la question de la norme d'une manière un peu différente. Et est-ce que, voilà, de combiner ces deux approches, ça ne serait peut-être pas justement de mettre en lumière cette dynamique des normes de manière plus fine.
Oui, c'est vraiment le cas pour certains de nos patients, mais encore une fois, si vous voulez, beaucoup se présentent comme des pas malades, malgré, chez eux, on puisse observer des signes de la maladie. C'est vraiment aussi, on est parti de leur point de vue et de leur expérience dans la vie de tous les jours, puisque... finalement, ils deviennent un peu des invisibles dans la vie sociale, puisqu'ils continuent justement à faire leur pratique, enfin à les reconduire. Mais certains, c'est vrai, d'autres perdent la mobilité, arrivent en fauteuil. Et là, on peut mobiliser la sociologie du handicap, notamment peut-être sur les frontières d'humanité. Ça rejoindrait déjà les analyses là, que je vous ai partagées aujourd'hui. Parce qu'ils se revendiquent justement d'une humanité commune et au contraire, même en situation de fauteuil, apprennent à ne pas culpabiliser de se retrouver dans cette situation et à assumer le fait de ne rien faire, de ne pas être productif pour la société, de ne pas avoir cette place à jouer. Donc en fait, je pense que ça rejoint quand même cette normalisation que je vous évoquais déjà dans le cadre même des situations d'handicap.
Dernière question, Aline.
C'est dépistage. Donc, je ne connais pas bien en fait la question du dépistage de cette maladie, etc. Vous en avez parlé un petit peu. Donc, une des questions, je voulais savoir si les personnes savent, enfin, les adultes savent que ils vont développer la maladie comme pour la chorée de Huntington, où en fait le dépistage fait en sorte que les gens savent qu'à un moment donné ils vont développer la maladie et que donc ils guettent les signes en quelque sorte. Donc est-ce qu'on observe les mêmes choses? après il y a la vie. Mais après, ma deuxième question, c'est sur la notion d'éradication dont vous avez parlé, donc toujours autour de cette question du dépistage. Donc, est-ce que c'est formulé comme de cette façon pour les patients, c'est ce que j'ai pu comprendre. Mais est-ce que ce sont est-ce que le dépistage est accepté, est-ce que de manière et une fois que le dépistage est là, qu'est-ce que font les gens, quoi? Est-ce qu'il y a des avortements thérapeutiques qui sont faits? Et est-ce qu'il y a une communauté en quelque sorte de enfin, au sens d'une socialité là, qui s'est constituée autour de cette maladie qui défend un peu l'existence de enfin, que les personnes puissent. Enfin, moi, avant d'être anthropologue, j'étais médecin. Les seuls Steiner que j'ai pu rencontrer, c'était deux enfants dont la maman savait, en fait, elle avait eu un diagnostic prénatal et elle savait que ses enfants étaient atteints et elle a choisi de les garder. Et c'est quelque chose qui avait été. Il y avait une incompréhension totale de la part des soignants. Et je pense qu'elle a dû vivre avec ça. Enfin, ses enfants aussi ont dû vivre avec ça. Donc, je pense qu'il y a aussi un décalage entre la vision des soignants et celle des patients par rapport au dépistage.
Oui. Alors, déjà, l'annonce du diagnostic, pour répondre à votre première question, c'est vrai qu'il y a, moi, une vision programmatique de l'avenir du patient de Steiner sur ce qui va lui arriver dans un futur proche. Perdre la mobilité, ou c'est pas si fixé que ça, parce que d'ailleurs toutes ces multi-atteintes que je vous ai décrites, elles se répartissent différemment sur ces patients, qui vont être atteints plutôt des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Il y a des déclenchements tardifs, d'autres qui sont beaucoup plus progressifs. C'est vrai qu'il y a, c'est pas si fixé que chez d'autres maladies neuromusculaires, comme chez les Becker peut-être, ou dans la maladie de Duchenne, où on connaît plus ou moins, enfin, on sait que ce sont des patients qui finiront en fauteuil. Donc déjà ça joue moins là-dessus, et surtout selon l'âge, encore une fois, du diagnostic. Pour ce qui est de votre seconde question, sur l'éradication. Alors c'est vrai que c'est un modèle soignant qui apparaît de proposer systématiquement, enfin de poser sur la table toutes les possibilités d'avoir à connaître à savoir si l'enfant est porteur du gène ou pas avant la naissance ou avant même la conception dans le cadre du diagnostic préimplantatoire. Donc c'est vrai que il y a un conseil génétique qui va se faire ainsi systématiquement auprès des jeunes couples, justement pour essayer de les prévenir sur les possibilités d'avoir un enfant non atteint, en mettant l'accent sur les caractéristiques graves que peuvent contracter les enfants à la naissance, la difficulté ou peut-être l'impossibilité de marcher, voire un décès précoce. Donc parfois, il y a un petit peu ce tableau noir qui peut être avancé. Donc évidemment, disons que c'est peut-être, comme je le disais dans la communication, c'est le moyen de guérison, en quelque sorte, guérir la famille par sa transmission génétique, en évitant qu'elle reproduise ce schéma. Et c'est d'ailleurs ce qui est repris dans les discours de certains patients, de se dire « c'est le seul moyen qui nous est offert dans la famille de pouvoir éviter de transmettre cette cochonnerie ou ce truc, comme ça a pu être formulé. » D'ailleurs, avec des difficultés pour certaines jeunes femmes d'accomplir des projets de grossesse, puisque l'une d'entre elles, dans l'attente de connaître le diagnostic, parce qu'elle était déjà enceinte, elle avait des difficultés à se projeter sur cet enfant, en le nommant le truc, avant de savoir que finalement ce serait un enfant sain. Donc voilà, ça crée aussi, une grande vigilance là-dessus. Et à la fois, comme vous le dites, on a pu observer chez d'autres familles plutôt un modèle de faire advenir un enfant qui est un peu soi-même, enfin le double de soi-même, puisque soi-même étant malade. Finalement, certains patients n'ont pas vécu de façon si douloureuse la transmission de la maladie, ce qui peut être étonnant. Enfin, et d'ailleurs, on tend à croire qu'il y a une culpabilité automatique de ces patients qui ont mis au monde des enfants également malades, mais pourtant, ça participe peut-être à cette normalisation de voir l'autre comme soi, comme son enfant, de ne pas avoir chez lui que l'enfant malade. Donc certains, au contraire, nous disaient être prêts à avoir des enfants sans passer par ces étapes de sélection génétique.
Alors, on va devoir terminer là-dessus. Mais c'est tout un champ de recherche, en fin de compte, hein, qui commence à quand même assez bien explorer en anthropologie de la santé, surtout ces enjeux éthiques qui sont en lien avec le dépistage, la réaction de la famille sur le dépistage, mais en particulier aussi sur la pression qui est faite par les compagnies qui produisent et vendent les kits de dépistage, et aussi le contenu des discours plus ou moins culpabilisants des professionnels qui sont en charge d'un counseling génétique auprès des familles qui ont à prendre ce genre de décision-là. Et, dans l'anthropologie, entre autres, autour de la Corée d'Huntington, il y a eu des recherches extrêmement intéressantes qui ont été menées par des anthropologues américains là-dessus. Mais là, bon, ça serait une autre séance, pas dire un autre colloque qui devrait y passer. Alors, donc, on va arrêter maintenant. Merci aux trois présentatrices. C'était très féminin, cet atelier. Et on va donc faire une pause pour ensuite laisser la parole à Yannick Jaffré pour la synthèse du colloque.